Les séminaires du Collège de France.
Bonsoir à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler des contraintes du fond diffus cosmologique. Je vais reprendre beaucoup de points que déjà Françoise a vous mentionné. Je vais vous parler un petit peu de la physique du fond diffus cosmologique et des observations en fait qui nous permet de mettre des contraintes sur les paramètres cosmologiques et sur les modèles cosmologiques en général. Donc déjà, je voudrais préciser, donc ça c'est une image du fond diffus cosmologique, voilà. Et je voulais préciser que je vais vous montrer en fait ces cartes où on voit en fait des points rouges et froides qui représentent des petites fluctuations de température de la radiation du fond diffus cosmologique. Et les gens qui n'ont jamais vu ce type de carte, bon, ça c'est simplement une projection en fait de la sphère sur un plan, exactement comme on peut faire quand on projette en fait une carte de la Terre en 2D. Donc, qu'est-ce que c'est le fond diffus cosmologique déjà ? Donc, c'est l'image la plus ancienne qu'on peut observer dans l'univers. Donc, c'est une image, c'est des photons qui nous arrivent depuis en époque très très ancienne, quand l'univers avait que 380 000 ans après le Big Bang. On sait aujourd'hui, grâce aussi aux observations de la radiation du fond diffus, que l'âge de l'univers est autour de 13,8 milliards d'années. Donc vous comprenez bien, c'est une radiation très très ancienne. Et en fait, on peut observer cette image primordiale de l'univers parce qu'il y a ce concept que vous connaissez sûrement en astronomie, du fait que, parce que la lumière a une vitesse finie, plus on regarde longtemps dans l'espace, et plus, en fait, on remonte dans le temps, parce que la lumière met un certain temps pour nous rejoindre à partir de son point d'émission. Et donc, plus on observe longtemps dans l'espace, plus on observe longtemps dans le temps, et jusqu'à arriver donc, à cette image de la CMB, Cosmic Microwave Background en anglais, qui vient de cette époque très très ancienne. Donc pourquoi c'est spécial, pourquoi cette radiation se forme ? Donc l'idée, il y a un petit peu cette idée, vous savez que l'univers est en expansion et Françoise vient de nous dire beaucoup de choses sur cette expansion de l'univers. Et donc, dans un univers en expansion, un univers en expansion, il se refroidit. Donc, si vous utilisez un petit peu la logique opposée, si vous remontez dans le temps, normalement, on devrait avoir un univers plus dense et plus chaud. Et à un certain point, en fait, si on remonte beaucoup dans le temps, on devrait avoir un univers tellement chaud que la matière n'était pas l'état de la matière, c'était pas l'état qu'on connaît tous les jours. Donc il n'y avait pas en fait de matière neutre. Donc de la matière neutre, ça veut dire des atomes où vous avez des noyaux positifs qui sont liés à des électrons et où la charge électrique en fait effective est nulle. Mais quand l'univers est très très énergétique, on a beaucoup de photons ionisants avec beaucoup d'énergie qui ionisent tous les atomes neutres qui peuvent se former. Et donc on a plutôt une soupe primordiale de noyaux positifs, donc engendre des protons qui sont rien d'autre que des noyaux d'hydrogène, mais et quelques noyaux en fait d'éléments plus lourds comme l'hélium. Et donc on a des noyaux positifs, on a des électrons qui se baladent libres dans l'espace, et vous avez de la radiation, donc par exemple des photons. Et ce qui se passe, c'est important pour comprendre la physique de la CMB, c'est que les électrons libres et les photons, en fait, interagissent beaucoup entre eux, avec un phénomène qui s'appelle Thomson scattering. Et donc ça veut dire que les photons ne sont pas libres de se propager dans l'univers. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que l'univers, à cette époque-là, n'est pas transparent à la radiation, n'est pas transparent aux photons. Et alors, ce qui se passe après, c'est que sous l'effet de l'expansion de l'univers, en fait, l'univers se refroidit. Il y a de moins en moins de photons ionisants dans l'univers. Et donc, finalement, les noyaux positifs, donc en particulier les protons et les électrons, peuvent se recombiner dans des atomes neutres. Et finalement, donc cette époque-là, c'est l'époque de la recombinaison. Et donc, les photons ne rencontrent plus en fait d'électrons libres parce qu'ils sont, deviennent tout liés à des atomes neutres. Donc, ce qui se passe, c'est que les photons rencontrent leur dernier électron avec lesquels interagit avec du Thomson scattering. Et après, ils sont finalement libres de se propager dans l'univers. Donc l'univers devient transparent à la radiation. Et c'est bien ces photons qui s'échappent après l'époque de la recombinaison qu'on observe sous le nom de du fond diffus cosmologique. Et vous comprenez bien que, en fait, cette radiation, c'est très intéressant parce qu'il nous donne énormément d'informations sur toute l'histoire de notre univers à partir des conditions initiales de l'inflation qui est cette époque d'expansion superluminale qui on pense a eu lieu au début de l'univers vraiment et qui a généré les inhomogénéités initiales dans la distribution de la matière. Mais aussi, la CMB nous donne énormément d'informations sur la physique de cette soupe primordiale, de cette plasma en fait, dans lequel on avait énormément d'interactions entre les différentes particules et où on avait ces fameuses oscillations acoustiques aussi, en fait comme des ondes de pression. Qui se propageait à travers ce milieu. On a beaucoup d'informations aussi sur la physique de la recombinaison, mais aussi on a des informations sur ce qui s'est passé après, pendant le voyage de ces photons, en fait, à partir de cette époque de la recombinaison jusqu'à nous. Donc, par exemple, les photons vont au nouveau interagir avec des électrons libres lorsque les premières étoiles s'allument dans l'univers. Donc ça, c'est l'époque de la réionisation. En fait, la lumière de ces premières étoiles vont réioniser une partie du milieu et une partie en fait, de ces photons de la CMB vont interagir au nouveau avec ces électrons libres. Et aussi, la propagation des photons de la CMB vont être affectés par la présence des grandes structures dans l'univers, en particulier à travers l'effet de lentille gravitationnelle. Et il y a quelques concepts que je voudrais souligner ici, c'est qu'aujourd'hui on reçoit ces photons d'une époque qu'on a dit, c'est plus de 13 milliards d'années, et d'une distance en fait de 47, à peu près de 45,7 milliards d'années-lumière. Et ça, c'est parce que entre-temps, l'univers s'est expandu, il est devenu plus grand, et donc le point d'origine de ces photons en fait est devenu même plus loin par rapport à la distance de quand ils ont été émis. Et le deuxième concept, c'est que en fait, dans chaque point de l'univers, on peut observer cette radiation tout autour. Donc un extraterrestre, par exemple, qui est à 45 milliards d'années-lumière de nous, en fait, il est en train d'observer aujourd'hui la radiation de la CMB qui s'est formée ici dans cette chambre. Il y avait même ici cette histoire que je vous ai racontée en fait de la CMB, bah, c'est ce qui s'est passé même ici. Dans chaque point de l'univers, dans chaque galaxie, dans chaque planète qu'on pourrait avoir, on pourrait observer en fait un ciel de CMB qui est différent par rapport à ce qu'on observe, mais avec les mêmes caractéristiques statistiques, parce que voilà, de ce qu'on sait jusqu'à maintenant, l'univers est homogène et isotrope. Donc, comment on est arrivé à la découverte de la CMB? La chose très intéressante, c'est que dans l'histoire de la CMB, il y a tout d'abord les hypothèses, c'est la théorie en fait qui est venue avant les observations. Donc, déjà, pour prédire l'existence de la CMB, on doit avoir ce concept de univers en expansion. Donc, c'est tout le travail en fait de Einstein, de Friedman, de Lemaître, qui propose des équations et des solutions aux équations de Einstein pour un univers en expansion. Et c'est Edwin Hubble en 1929. Qui en fait démontre pour la première fois que l'univers effectivement est en expansion en utilisant une méthode pour mesurer les distances des galaxies basées sur les céphéides qui a été développée par Henrietta Swan Leavitt. Et cette concept en fait d'univers en expansion, c'est très important parce que pour ce que je vous disais tout à l'heure, si l'univers est en expansion aujourd'hui et il devient de plus en plus froide, il y avait dans le passé une époque où l'univers était très dense et très chaud. Et donc on peut prédire en fait qu'à un certain point, l'univers devient transparent à la radiation et donc on peut prédire la CMB. Et c'est les travaux en fait dans les années 40 du groupe de George Gamow et collaborateurs qui développent en fait cette idée de l'existence de la radiation du fond du feu. Et ensuite, donc, il y avait plusieurs groupes qui essayaient de détecter cette radiation, et c'est en 1965 que Arno Penzias et Robert Wilson finalement détectent cet signal qui est un petit peu le même partout dans le ciel. Et grâce en fait à cette découverte, ils vont gagner en fait en 1978 le prix Nobel. Et donc, c'est quoi qu'on peut observer tout d'abord pour la CMB? Donc, déjà, la première chose que Penzias et Wilson ont détecté, c'est une radiation qui a une distribution de température, d'énergie, en fait, qui est celle d'un corps noir. Donc, un corps noir, c'est un objet idéal en physique. C'est un corps qui absorbe toute la radiation électromagnétique incident et qui remet des photons avec une distribution très particulière, donc une distribution d'énergie. Donc, vous avez une densité de photons en fonction de leur énergie ou de leur fréquence, si vous voulez. Et cette distribution est caractérisée par un paramètre qui est la température. Et donc, ce qu'on observe en fait, c'est qu'en moyenne, la CMB a la même température partout dans le ciel, ou presque, qui est autour de 2,7 Kelvin. Je vous rappelle que 0 Kelvin, ça correspond à moins 273 degrés Celsius. Et en fait, cette température a été mesurée très très bien par le satellite COBE, qui a été lancé en 1989. Et en fait, COBE a démontré effectivement que la CMB a cette distribution d'énergie de ses photons en fonction de la fréquence. a démontré en fait que la température, c'est bien cette fameuse 2.7. Maintenant, je vous ai dit, en fait, ou peut-être j'ai oublié de vous dire, qu'au moment de l'émission de la CMB, l'univers, en fait, avait une température de 3000 Kelvin. Mais la raison pour laquelle maintenant on observe la CMB à 2.7 Kelvin, c'est que entre-temps, l'univers s'est expandu, l'énergie de la CMB a été diluée par cette expansion, et donc c'est un effet de décalage vers le rouge, de redshift. L'énergie en fait ou même la température de la CMB aujourd'hui, sous l'effet de l'expansion de l'univers, aujourd'hui est beaucoup plus basse qu'à son émission, voire à 2.7 Kelvin. Et ça correspond en fait à une émission qui a un pic dans les micro-ondes. Donc c'est pour ça que les observations de la CMB sont justement dans les micro-ondes, alors qu'à l'époque de son émission, c'était plutôt dans l'infrarouge. Donc, qu'est-ce qui se passe si on retire en fait cette partie constante, cette température moyenne du ciel, et on regarde qu'est-ce qu'il reste? En fait, on s'est aperçu que il y a en fait une différence de température dans différentes ondes du ciel, qui est ce qu'on appelle le dipôle, et qui est dû au mouvement en fait du système solaire par rapport au référentiel de la CMB. Donc le Soleil ou le système solaire tourne autour du centre galactique de notre galaxie, et la galaxie aussi est en train de bouger par rapport au référentiel de la CMB. Et en total, notre Soleil il se déplace à une vitesse de 370 km par seconde par rapport à la CMB. Et ça a en fait un impact sur ce qu'on observe, parce qu'on a un effet qui est l'effet Doppler, que peut-être vous connaissez dans les ondes sonores. C'est la même raison pour laquelle une sirène en fait, d'ambulance change de tonalité si on s'approche, ou s'il est en train de s'approcher ou s'éloigner de vous. Bah, c'est pareil, si on est en train de se approcher ou s'éloigner par rapport à la CMB, on va observer des photons qui sont soit plus énergétiques ou moins énergétiques. Ça, c'est vraiment l'effet de notre mouvement par rapport à la CMB. Et donc, à partir de ces effets-là, en fait, avec les observations de cette dipôle, on peut effectivement estimer notre vitesse par rapport à la CMB. Et qu'est-ce qui se passe en fait si on retire le monopôle et le dipôle? On reste avec des petites anisotropies de température, donc des petites différences de température dans différents endroits du ciel, qu'on appelle les anisotropies de température. Et ça, en fait, c'est l'observable clé pour estimer en fait les paramètres cosmologiques et tester les paramètres cosmologiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces différents points rouges et noirs et bleus représentent en fait, comme je vous ai dit, des différents points chauds ou froids. Et ils représentent en fait vraiment ils sont en image en fait des inhomogénéités de densité qui étaient présentes dans l'univers primordial. Donc c'est les graines en fait des inhomogénéités que ensuite, grâce à l'effondrement gravitationnel, ont donné lieu aux galaxies et aux amas de galaxies qu'on peut observer aujourd'hui dans l'univers. Donc, en étudiant en fait les corrélations entre différents points sur cette carte, qui dépend de la cosmologie, on peut effectivement tester notre compréhension de l'univers et en particulier les modèles cosmologiques dont je vais vous parler dans une seconde. Mais avant de ça, je dois vous dire aussi donc, comment on peut résumer l'information qui est contenue dans cette carte de la CMB. Ce qu'on sait et ce qu'on teste, c'est que ces petits points-là, en fait, sont distribués comme une gaussienne, donc une distribution de probabilité gaussienne. Et une gaussienne, effectivement, est caractérisée par deux quantités qui sont sa moyenne, et on a déjà vu que la moyenne de la CMB est 2,7 Kelvin, et si on retire ça, la moyenne de cette carte est 0, et sa variance. Donc la variance, c'est simplement l'amplitude du contraste de température, si vous voulez, dans cette carte-là. Et dans la CMB, on a des corrélations spatiales, c'est-à-dire un point, si vous trouvez un point chaud, par exemple, ici, il y a une forte probabilité en fait de rencontrer un autre point chaud les deux points sont séparés à peu près de 1 degré dans le ciel, 1 degré angulaire. Et donc cette information en fait de corrélation entre les différents points est contenue dans la covariance ou variance entre les différents points en fonction de leur séparation angulaire. Et dans l'espace de Fourier, pour celles d'entre vous qui connaissent un petit peu cet objet mathématique, dans l'espace de Fourier, ça c'est simplement un spectre de puissance. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas cet objet mathématique, ou plutôt en fait les harmoniques sphériques, c'est suffisant en fait de comprendre que ça, donc ça c'est cette spectre de puissance. Ici on a des grandes échelles angulaires, ici on a des petites échelles angulaires, et en fait le spectre de puissance, il nous dit en fait le contraste de température qu'il y a à différentes échelles angulaires. Donc en particulier ce premier pic ici correspond effectivement à des échelles angulaires d'à peu près 1 degré sur cette carte. Et c'est effectivement l'objet clé qu'on utilise dans les études du fond diffus cosmologique pour comparer les données que je vous montre ici, par exemple, à partir des observations du satellite Planck. Pour comparer les données au modèle cosmologique. Donc, déjà, je vous ai montré un petit peu de données. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus de détails plus tard. Mais je veux aussi vous dire quel type de modèle, en fait, on peut tester en comparant avec ces données. Et donc, c'est par exemple le modèle lambda-CDM, qui est le modèle standard de la cosmologie, qui est basé sur la validité de la relativité générale pour décrire la gravité et du modèle standard des particules pour décrire les interactions entre les particules. Dans ce modèle, l'univers est homogène, isotrope et plat. Les conditions initiales sont fixées par l'inflation, donc cette accélération superluminale au début de l'univers, et je sais que vous avez déjà entendu des séminaires sur ce sujet-là. Et il contient de la matière noire froide, de l'énergie sombre et de la matière ordinaire, et des photons, du rayonnement, donc des photons et des neutrinos. Et ce modèle-là, en fait, est contrôlé par quelques paramètres cosmologiques, genre la densité d'énergie des différentes composantes, hein, de la matière noire, de l'énergie sombre, de la matière ordinaire et de la radiation, et quelques autres paramètres comme l'amplitude et le spectre de puissance des perturbations primordiales. Ça c'est le modèle lambda-CDM. Après, on teste en fait chacun de ces hypothèses. En fait, on peut éliminer ces hypothèses et tester si des modèles plus exotiques ou différents peuvent donner un meilleur accord avec les données. Mais ça c'est le modèle, disons, base. Et ce modèle base nous aide à prédire le spectre de puissance de la CMB. Il y a énormément de physique très très belle en fait qui rentre dans ces spectres. C'est extrêmement, c'est très complexe et très riche en fait. Différentes échelles angulaires en fait sont affectées par des différents effets physiques. Et par exemple, ces échelles intermédiaires sont vraiment le résultat de ces oscillations acoustiques dont Françoise a parlé dans son cours. Donc vraiment ces ondes de pression qui se propagent dans le plasma primordial. Par exemple, comme je vous disais, le modèle dépend des paramètres cosmologiques. Donc, par exemple, ici, je suis en train de varier la quantité, la densité de matière noire présente dans l'univers. Et vous voyez que si on change en fait cet paramètre, on va changer aussi l'auteur de ces pics, la forme de ce spectre, ainsi que la position de ces pics. Donc, on doit ajuster en fait les paramètres du modèle pour pouvoir bien décrire les données qu'on a à partir des observations. Donc ça, au nouveau, c'est le spectre qu'on a observé avec le satellite Planck. Et ça, c'est le modèle. Et vous voyez, c'est incroyable, hein, avec 6 paramètres cosmologiques, on arrive à bien décrire les 2500 points de cette quantité-là, mais aussi, et je vais vous en parler dans les prochains slides, des autres observables qu'on peut déduire à partir des observations. Donc, en total, c'est à peu près 6500 points qu'on décrit simplement avec un modèle et 6 paramètres libres. Donc, comme je vous disais, la CMB a même plus d'informations que simplement les anisotropies de température. Donc, en particulier, la CMB est aussi légèrement polarisée. Vous savez, la polarisation, ça veut dire que donc, si on a une lumière qui n'est pas polarisée, ça veut dire que le champ électromagnétique peut osciller en fait, dans toutes les directions de l'espace. Alors que pour la lumière polarisée, vous avez une direction préférentielle en fait d'oscillation pour le champ électrique en fait du photon. Et donc à peu près 10% des photons de la CMB sont polarisés, et donc on peut mesurer cette direction préférentielle en fait d'oscillation des photons. Et mesurer donc la direction et l'amplitude en fait de cette polarisation. Et ça nous rajoute en fait de l'information complémentaire sur les modèles cosmologiques qu'on peut au nouveau étudier à travers des spectres de puissance en polarisation cette fois-ci, qui décrit en fait l'information statistique qu'il y a dans ces cartes. Et en final, je vais aussi mentionner l'effet de lentille gravitationnelle. Donc, je vous ai dit que les photons de la CMB rencontrent en fait les puits de potentiel gravitationnel créés par la matière dans l'univers. Et donc, leur position en fait est affectée par la présence de ces puits. Et cette distorsion est très très petite. Vous voyez ici, donc ça c'est une simulation d'une carte de la CMB, et ça c'est sans l'effet de lentillage, et ça c'est avec l'effet de lentillage. Vous voyez que la position des photons bouge un tout petit peu, c'est un effet très très petit, mais on peut le mesurer, et ça nous permet en fait de reconstruire la carte cette lentille gravitationnelle des grandes structures de l'univers. Et au nouveau, on peut étudier en fait la statistique de ces cartes avec des spectres de puissance. Donc, pour remettre tout ensemble, on a toutes ces données-là en fait à partir des expériences. Au nouveau, ça en particulier, c'est à partir du satellite Planck, qu'on peut utiliser pour ajuster ces courbes-là en fonction de quelques paramètres libres et mesurer les paramètres cosmologiques qui gouvernent en fait ces modèles. Et de plus, on peut changer le modèle qu'on teste avec ces données-là et vraiment utiliser la CMB comme un laboratoire de physique fondamentale, parce que ces spectres de puissance en fait dépendent énormément de différents phénomènes physiques qu'on peut en fait essayer de modifier et voir si les données sont en meilleur ou pire accord avec les données. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous parler un petit peu de l'expérience Planck. Donc, ici, c'est au nouveau les spectres de puissance en température et polarisation. Les points de Planck sont en bleu. Il continue à être en fait l'expérience phare de la cosmologie. Mais il y a aussi des autres expériences et je vais vous en mentionner quelques-unes après. Donc, le satellite Planck. C'était un satellite de l'Agence spatiale européenne qui a été conçu en fait au début des années 90, mais lancé en 2009. Il faut énormément de temps pour lancer un satellite. Et il a été opérationnel jusqu'en 2013. Et c'était le résultat en fait d'une très grosse collaboration entre différentes institutions et universités. Et l'objectif principal de Planck, c'était justement d'obtenir une mesure définitive des anisotropies de température, ou presque définitive. C'était le troisième satellite qui observait la CMB, après le satellite Kobe, dont je vous ai déjà parlé, et le satellite américain WMAP. Et il a opéré dans le point de Lagrange L2, qui est à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Il avait deux instruments à bord, le LFI, Low Frequency Instrument, et HFI, High Frequency Instrument, dans des différentes bandes de fréquences dans les micro-ondes. Et donc LFI était piloté par les Italiens et HFI était piloté par la France. Et il y avait aussi une partie de ces bandes de fréquences qui était aussi sensible à la polarisation. Et en fait, la chose technologiquement incroyable de Planck, c'était que c'était refroidi à une température hyper basse, à 0,1 Kelvin. Donc c'était effectivement le point le plus froid de l'univers, le plus froid. On a eu trois distributions de données, trois releases de données, une première en 2013, une deuxième en 2015 avec tous les données, et on a mis entre 3 et 4 ans vraiment pour nettoyer bien les données de tous les effets systématiques instrumentaux et pour publier les derniers résultats. Et moi, j'ai eu la chance en fait de travailler sur cette mission pour 10 ans et de piloter en fait l'analyse cosmologique finale de Planck. Et pourquoi donc toutes ces bandes de fréquences? Pas parce que en fait, en vrai, dans les micro-ondes, on n'observe pas que la CMB dans l'univers. Il y a plein de choses qui émettent dans les micro-ondes. Par exemple, les amas de galaxies, les galaxies eux-mêmes. La poussière galactique aussi de notre galaxie émet dans les micro-ondes. Le synchrotron. Et donc, il faut distinguer en fait l'émission de corps noirs de la CMB et l'émission de tous ces autres objets qui émettent dans les micro-ondes. Clairement, ce sont aussi des émissions très très intéressantes. On peut étudier, par exemple, les amas de galaxies à partir des observations de Planck dans les micro-ondes, dans les amas de galaxies, ou même étudier la physique de notre galaxie à travers l'émission de sa poussière, ou à travers l'émission de synchrotrons. Mais si on est intéressé que à la CMB, on doit pouvoir nettoyer en fait notre carte de ces émissions d'avant-plan, et donc avoir plusieurs fréquences nous aide en fait dans cette défi. Donc ça, c'est les cartes de Planck à différentes fréquences, comme je vous disais, et vous voyez très bien en fait l'émission de notre galaxie. Ça, c'est le plan galactique. L'émission de notre galaxie par exemple ici, est dominé par l'émission de la poussière galactique. Donc ça, comme je vous ai déjà montré, sont les spectres de puissance de Planck en température, en polarisation. Ça, c'est la corrélation entre la température et la polarisation, et ça, c'est le spectre de puissance de l'anti-aliasage gravitationnel. Et à partir de ces spectres de puissance, on peut estimer les paramètres cosmologiques. Donc clairement, je ne veux pas que vous... Voilà, j'ai mis ici les chiffres, mais ce n'est pas pour aller vraiment dans les détails des nombres. Je vais vous en fait dire en quelques mots pourquoi ces chiffres sont intéressants. Donc déjà, on mesure beaucoup de ces paramètres avec une précision incroyable au niveau du pourcent ou même du pour mille. Donc on connaît par exemple la densité de matière sombre ou de matière ordinaire dans notre univers avec une précision qui est très très bonne. On a démontré avec Planck déjà que ce modèle standard de la cosmologie marche extrêmement bien pour décrire les spectres de puissance, et les paramètres de ce modèle sont très très bien mesurés par ces données. Et vous voyez ici l'évolution dans le temps, en fait, de la précision sur ces paramètres cosmologiques. Donc ça, c'était avant le satellite WMAP. Après, ça, c'est tous les résultats de WMAP dans différents releases de données. Et les points rouges sont les trois releases de Planck. Vous voyez que là, dans la dernière release, en fait, notre bande d'erreur sont tellement petits que vous les voyez même pas, par rapport à des très grandes bandes d'erreur qu'on avait, avec les précédentes expériences. Donc déjà, comme je vous ai dit, on a déterminé le contenu énergétique de l'univers avec très grande précision. Nous avons déterminé en fait l'époque à laquelle les premières étoiles sont allumées en fait. Donc cette époque de la rayonisation qu'on pense, on a estimé qu'il s'est passé à peu près 500 millions d'années après le Big Bang. Et on a aussi confirmé en fait que la théorie de l'inflation, donc l'hypothèse que l'univers a passé une période d'expansion très très vite au début de sa vie, en fait on a confirmé que cette théorie est bonne pour l'instant, en mesurant en fait le spectre de puissance des inhomogénéités primordiales, si vous voulez. Ensuite, au nouveau, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comme je vous ai dit, on a testé énormément de modèles pour voir, par exemple, si dans la CMB, il y a des traces de l'annihilation de matière noire ou de la variation des constantes fondamentales. On a cherché la présence des champs magnétiques primordiaux. On a testé la physique de la récombinaison et plein d'autres modèles. Mais aucun de ces modèles, en fait, décrit les spectres de puissance de la CMB mieux de ce que fait déjà le modèle standard. On a, oui, trouvé quelques résultats curieux que pour l'instant on ne sait pas trop si c'est des fluctuations statistiques ou effectivement un signe de quelque chose de plus intéressant. Et on a trouvé aussi des tensions. On a trouvé aussi un très bon accord avec des autres observations, mais aussi des tensions, des désaccords avec quelques autres observables, en particulier sur cette quantité H0, qui est le taux d'expansion de l'univers, dont Françoise a déjà parlé. Donc, cette tension de Hubble, c'est le fait que, à partir de la première release de données de Planck en 2013, en fait, on a trouvé un taux d'expansion de l'univers aujourd'hui qui est plus bas de ce qui est préféré par les observations plus directes et d'objets plus proches de nous, qui sont les supernovae calibrées par les céphéides. Les supernovae sont des explosions d'étoiles, si je peux simplifier comme ça, et les céphéides sont des étoiles variables qui nous aident en fait à estimer tous les deux des distances dans l'univers. Cette différence en fait est devenue maintenant une importance statistique, disons, de plus de 5 sigma. Et pendant les derniers 10 ans, vraiment, on a travaillé énormément pour recontrôler en fait ces résultats, voir si on s'est trompé, soit dans les mesures de la CMB, soit dans les mesures des supernovae. Et pour l'instant, personne ne trouve en fait des problèmes dans ces deux mesures. En plus, les résultats de Planck ont aussi été confirmés par des autres expériences CMB comme ACT et SPT, et par les résultats des BAO. Dont Françoise a déjà parlé. Donc pourquoi c'est intéressant cette Hubble tension? Parce que si en fait c'est vraiment ça, donc c'est pas dû à un problème dans ces observations-là, eh bien ça pourrait être là le signe qu'il y a une lacune, si vous voulez, dans notre compréhension en fait de l'univers et dans la cosmologie, dans ce modèle standard de la cosmologie. Pourquoi? Parce que les supernovae et les céphéides en fait observent directement ce taux d'expansion de l'univers, alors que la CMB en fait la mesure du taux d'expansion de l'univers aujourd'hui, c'est pas une mesure directe de la CMB, parce que la CMB, effectivement, c'est quelque chose qui vient de très loin. À partir des spectres de puissance, on peut mesurer les paramètres cosmologiques, et ensuite, en utilisant un modèle, on peut prédire le taux d'expansion de l'univers aujourd'hui. Et donc, le point, c'est que si notre modèle est faux, aussi notre prédiction à partir des données de la CMB du taux d'expansion de l'univers est aussi faux. Et donc, il faut trouver un nouveau modèle, peut-être avec de la nouvelle physique qu'on ne connaît pas encore, pour mettre en accord ces deux observations. Donc, vous voyez, ça, c'est prix Nobel. Si vous trouvez un modèle qui non, vous rigolez, mais c'est vrai. Et en plus la personne qui est, en fait, le chef de ces observations Schuss a déjà un prix Nobel. Moi, je pense qu'il cherche d'avoir son deuxième prix Nobel en physique. Mais c'est vrai, c'est une des choses les plus intéressantes en fait en cosmologie aujourd'hui. Et c'est pas moi qui va avoir le prix Nobel pour ça, même si je travaillais beaucoup sur ça. On a heureusement beaucoup de théoriciens qui ont bien réfléchi à des possibles modèles alternatifs qui pourraient mettre en accord ces deux mesures en fait du taux d'expansion de l'univers. Donc là, c'est un petit review qu'on a fait avec un postdoc à l'IAP où on a regardé, par exemple, si on a une masse de l'électron qui est variable ou de l'énergie sombre primordiale, est-ce que notre prédiction de la constante de Hubble change assez pour remettre en accord les observations de la CMB et les supernovae. Et vous voyez qu'aucun de ces modèles, en vrai, arrive à changer ce valeur pour le remettre complètement en accord avec les mesures des supernovae. On a quelques modèles en fait où on a des bandes d'erreur qui deviennent de plus en plus larges, donc l'accord est un petit peu mieux, mais vous voyez qu'il n'y a aucun de ces modèles encore qui vraiment peuvent expliquer cette différence. Mais il y a plein d'idées encore dans la littérature et plein d'idées en fait pour essayer de trouver ce fameux modèle. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans la suite? On a encore énormément de mystères. On sait que le modèle standard de la cosmologie marche très bien, mais qu'est-ce que c'est ce modèle standard de la cosmologie? On a de la matière sombre, on ne sait pas qu'est-ce que c'est la matière sombre. On a de l'énergie sombre, oui, on sait qu'il est responsable de l'expansion accélérée de l'univers aujourd'hui, mais on ne connaît pas en fait sa nature physique. Donc, on a énormément de questions encore sur ce qu'il y a dans l'univers. On a ces tensions qu'on n'arrive pas encore à expliquer, donc on a énormément encore de mystères à découvrir, et heureusement la CMB a encore énormément d'informations qui peut nous donner. Donc je vous ai déjà montré que Planck a mesuré très bien en fait le spectre de Buissons en température, mais il y a encore de l'information à petite échelle angulaire, et il y a encore énormément d'informations dans la polarisation parce que Planck en fait n'était pas assez sensible pour bien mesurer la polarisation de la CMB. Et aussi, il y a un autre objectif très important, dont je ne suis pas allée dans les détails, qui est de détecter les ondes gravitationnelles primordiales à travers en fait, la polarisation de la CMB, en particulier un schéma de polarisation très caractéristique qu'on appelle les B-modes, à grande échelle. Et ça, c'est un objectif important. Parce que, en fait, si on arrivait à détecter ce type de polarisation dans la CMB produit par les ondes gravitationnelles primordiales, ça nous aiderait énormément pour comprendre en fait, la physique de l'inflation cosmique. Donc, c'est vraiment un des objectifs principaux des futures expériences. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore.
10 minutes.
Parfait. Et donc aujourd'hui, donc Planck était un satellite, mais il est le plus fonctionnel depuis 2013. Hein, il se balade dans l'espace maintenant librement. Et aujourd'hui, on a que des expériences qui sont menées au sol. Principalement de deux endroits, du désert de Atacama au Chili, où on a ACT, Polar Bear et Simons Observatory, et au pôle sud, avec le télescope du pôle sud et Bicep Keck. Donc la raison pour laquelle on a ces deux endroits-là, c'est que ces deux endroits-là, en fait, sont très secs et avec une atmosphère qui est très stable. Et la raison pour laquelle vous voyez, en plus ils sont en altitude. Et la raison pour laquelle ça c'est très utile quand on observe dans les micro-ondes, c'est parce que la vapeur d'eau absorbe les micro-ondes. Donc on veut une atmosphère qui est le plus sec possible, et on veut être en altitude pour avoir de moins en moins d'atmosphère entre vous et l'espace. Et je vais vous parler un petit peu plus du télescope du pôle sud, parce que c'est l'expérience sur laquelle je suis en train de travailler aujourd'hui. Donc SPT, c'est un télescope de 10 mètres qui est au pôle sud, c'est vraiment le pôle sud géographique, où il y a une station de recherche américaine. Et il est en train d'observer le ciel avec sa troisième caméra, le SPT-3G, qui est en train de prendre des données depuis 2018. Et on a 16 000 détecteurs qui sont en train de prendre des données dans trois bandes de fréquences différentes à très très haute résolution spatiale. Une résolution spatiale qui est à peu près 6 fois meilleure de celle de Planck. Et vous voyez que Planck avait autour de 70 détecteurs, alors que là, aujourd'hui, on en a 16 000. C'est pas une comparaison très juste en fait, parce que de l'espace on n'a pas l'atmosphère, et donc on peut en fait avoir moins de détecteurs mais toujours une très bonne sensibilité. Mais effectivement en fait SPT va avoir des données qui vont être entre 3 et 17 fois meilleures que Planck grâce à cette grande Planck focale. Donc déjà, on a publié les résultats des premiers 4 mois d'observation de SPT-3G qui sont en accord avec Planck, mais aussi avec l'autre expérience en fait, qui est en train d'observer le CMB à petite échelle, qui est le Atacama Cosmology Telescope depuis le désert de Atacama. Donc on a un bon accord avec les résultats de Planck, mais pour l'instant, des bandes d'erreur qui sont encore trois fois moins bonnes que celles de Planck. Mais ça, c'est que quatre mois d'observation. Alors qu'on a énormément de données, on a déjà observé le ciel pour cette petite partie de ciel en vert déjà pour 5 ans. On a observé ces patchs, ces régions de ciel jaune pour 4 ans. Et on a aussi des observations de ces régions de ciel en rouge 1 an. Donc c'est plusieurs années d'observation. On a publié déjà les résultats simplement de 4 mois d'observation. En plus, c'était des observations avec que la moitié du plan focal. Mais on s'attend en fait d'avoir vraiment des résultats très, très intéressants en utilisant toutes les données qu'on a pris de ces différentes régions du ciel. Et ça, ce que je vous montre, en fait, c'est le rapport entre les signaux et les bandes d'erreur sur les spectres de puissance en température et en polarisation ici. Et ça, c'est le spectre de puissance de lentille gravitationnelle. En fonction du multipole, donc ici c'est les grandes échelles et ici c'est les petites échelles angulaires. Et vous voyez par exemple pour la polarisation, ça c'est le signal to noise de SPT, donc le rapport entre le signal et le bruit, si vous voulez, les bandes d'erreur, comparé avec celle de Planck. Vous voyez, il y a énormément d'informations en plus dans SPT, si on analyse en fait toutes les données de toutes les régions de ciel observées par rapport à Planck. Et on s'attend en fait que grâce à ces observations, on va pouvoir améliorer les contraintes sur les paramètres cosmologiques entre un facteur 2 et 3 par rapport à Planck, et donc avoir énormément de contraintes nouvelles sur les modèles cosmologiques, et même les modèles cosmologiques, par exemple, qui sont proposés pour résoudre la tension de Hubble, par exemple. Et je voulais seulement mentionner que voilà, la France a un rôle dans cette aventure. En particulier tous ces jeunes ultra brillants avec lesquels j'ai vraiment la chance de travailler, qui sont à l'IAP, en fait, sont en train de piloter différentes parties de l'analyse de SPT-3G. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans le futur proche et le futur plus lointain? Le télescope de Pôle Sud continue à prendre des données et avec BICEP, qui est une autre expérience au Pôle Sud qui a comme but d'observer ou de détecter pour la première fois les ondes gravitationnelles primordiales. En fait, ces deux télescopes forment le South Pole Observatory, SPO. Et aussi, il y a un autre observatoire, le Simons Observatory, qui est en train de commencer à prendre des données maintenant dans le désert de Atacama, avec à peu près 30 000 détecteurs. Et dans le futur, encore plus lointain, en fait, probablement entre 10 et 15 ans, on aura peut-être, il y a beaucoup de gens qui sont en train de travailler pour construire un nouveau satellite, le satellite Lightbird, qui a comme but au nouveau d'observer en fait, ou de détecter les ondes gravitationnelles primordiales. CMBS-4, qui est la prochaine génération d'expériences CMB au sol, avec à peu près 500 000 détecteurs. Donc le futur pour la CMB est très très riche et on a en fait encore énormément à apprendre grâce à cette observable. Merci beaucoup.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.